Alors, je vais me représenter parce que depuis quelques mois, nous avions arrêté de lire à Auroville Radio Ganga Lakshmi, qui travaille à Savitri Bhavan. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 23, la signification essentielle de la Gita, de Sri Aurobindo. Pourquoi j'ai choisi ce chapitre? Parce qu'il définit la signification essentielle de ce que représente la Gita. Alors, je vais vous lire un petit passage comme présentation de ma reprise à vous lire. Quel est alors le message de la Gita et quelle est sa valeur pratique, son utilité spirituelle pour le mental humain? D'aujourd'hui, après les longues périodes écoulées depuis qu'elle fut écrite et depuis les grandes transformations de la pensée et de l'expérience qui en dérivèrent. Le mental humain va toujours de l'avant, modifie son point de vue, élargit la substance de sa pensée et ces changements ont pour résultat de faire tomber en désuétude les anciens systèmes de pensée ou lorsqu'ils sont épargnés, d'en étendre la valeur, de la modifier et subtilement ou visiblement de la transformer. Une ancienne doctrine a d'autant plus de vitalité qu'elle se prête plus naturellement à un traitement de ce genre. La Gita est un livre qui a extraordinairement bien vieilli et elle est presque aussi jeune et dans sa substance réelle encore aussi nouvelle. Car l'expérience peut toujours la renouveler. Alors je reprécise, car l'expérience peut toujours la renouveler. Jusqu'au moment où elle fut insérée pour la première fois dans le cadre du Mahabharata et qu'au moment où elle fut écrite dans ce cadre précis. On la reçoit encore en Inde comme l'un des plus grands corpus de doctrine qui en matière de pensée font le plus autorité. Et si elle n'accepte pas toujours entièrement presque toutes les nuances de la foi et de l'opinion religieuse, lui reconnaissent cependant la plus haute valeur. Son influence n'est pas seulement philosophique ou académique, mais directe et vivante. Elle vaut tant pour la pensée que pour l'action. Et ces idées actuellement à l'œuvre sont un puissant facteur d'action créatif dans la renaissance et le renouveau d'une nation et d'une culture. Une grande voix a dit récemment que toute la vérité spirituelle dont nous avons besoin pour la vie spirituelle se trouve à coup sûr dans la Gita. Ce serait encourager la superstition du livre que de prendre trop littéralement cette déclaration. La vérité de l'esprit est infinie et ne peut être circonscrite de cette manière. On peut dire toutefois que la plupart des grands fils conducteurs se trouvent dans la Gita et qu'après tous les récents développements de l'expérience et de la découverte spirituelle, nous y pouvons encore revenir pour en recevoir inspiration et conseil. Or, de l'Inde aussi, on reconnaît partout en elle de grandes écritures du monde, bien que l'Europe en comprenne mieux la pensée que le secret pratique spirituel. Qu'est-ce qu'alors qui donne cette vitalité à la pensée et à la vérité de la Gita? L'intérêt central de la philosophie et du yoga de la Gita se trouve dans sa tentative, dans l'idée sur laquelle elle s'ouvre, se poursuit et s'achève, pour concilier et même effectuer une sorte d'unité entre la vérité spirituelle intérieure en sa réalisation la plus absolue et la plus intégrale, et les réalités extérieures de la vie et de l'action humaine. Un compromis entre les deux est assez chose commune, mais ce ne peut jamais être une solution satisfaisante et définitive. L'un de ces problèmes est en fait le point de départ de la Gita, qui commence avec une question éthique posée par un conflit où nous avons d'une part le dharma de l'homme d'action, prince, guerrier, chef, protagoniste d'une grande crise, d'un combat sur le plan physique, le plan de la vie réelle, entre les pouvoirs de la justice et du bien et les pouvoirs de l'injustice et du mal. L'exigence que lui impose la destinée de la race de résister, de livrer combat et d'établir fut au prix d'un terrible combat physique et d'un gigantesque carnage, une nouvelle ère, un nouveau règne de la vérité, du bien, de la justice et d'autre part avec le sens éthique qui condamne le moyen de l'action comme péché, recule devant le prix de la souffrance individuelle et de la lutte sociale, de l'agitation et des troubles sociaux, et considère que la seule attitude morale juste consiste à s'abstenir de la violence et de la bataille et qu'il n'est pas d'autre chemin. S'il faut en soit peu la livrer, la bataille doit l'être sur le plan spirituel et en recourant d'une façon ou d'une autre à la non-existence, résistance ou refus de participer ou en recourant seulement à la résistance de l'âme, si cela échoue sur le plan extérieur, si la force de l'injustice l'emporte, l'individu aura néanmoins préservé sa vertu et par son exemple était le champion du plus haut idéal. En revanche, en position extrême et plus insistante de la direction spirituelle intérieure dépassant cette lutte entre le devoir social et un idéal éthique absolutiste, a facilement tendance à prendre le chemin de l'ascétisme et rejetant la vie, ses buts, ses normes d'action, à désigner un autre état céleste ou supracosmique en lequel seulement, par-delà la confuse vanité, la confuse illusion de la naissance, de la vie et de la mort de l'homme, il peut y avoir une existence spirituelle pure. La Gita ne rejette aucune de ces choses quand elle se présente, car elle insiste sur l'accomplissement du devoir social. Elle veut que l'homme, qui doit prendre part à l'action commune, suive le Dharma. Elle accepte l'Ahimsa comme partie de l'idéal éthico-spirituel le plus élevé et reconnaît que le renoncement ascétique est un chemin de salut spirituel. Et pourtant, elle dépasse hardiment toutes ses possibilités contradictoires. Avec beaucoup d'audace, elle justifie pour l'esprit toute la vie comme une manifestation de l'unique être divin et affirme qu'ils sont compatibles et que sont compatibles une complète action humaine et une vie spirituelle complète vécue en union avec l'infini, en harmonie avec le moi suprême exprimant le divin parfait. La vie et la matière sont la base réelle, ce dont il part, sur quoi il se tient et dont il doit satisfaire les exigences et la loi s'il veut si peu que ce soit exister sur la terre et dans un corps. La loi matérielle et vitale est une règle de survie, de lutte, de désir et de possession, d'affirmation de soi, de satisfaction du corps et de la vie et de l'ego. Tout le raisonnement intellectuel du monde, tout l'idéalisme éthique et tout l'absolutisme spirituel sont capables. Les facultés supérieures de l'homme ne peuvent abolir la réalité, les droits de notre base vitale et matérielle, ni empêcher la race impérativement contrainte par la nature de suivre ses buts et d'assouvir ses nécessités, ou de faire ses problèmes majeurs une grande et légitime part de la destinée humaine et de l'intérêt de l'effort humain. Et même, ne pouvant trouver aucun aliment dans les solutions spirituelles ou idéales qui résolvent tout, sauf les pressants problèmes de notre vie actuelle. L'intelligence de l'homme s'en retourne souvent pour accepter exclusivement l'existence vitale et matérielle et en poursuivre le plus loin possible de façon raisonnée et instinctive l'efficacité, le bien-être et la satisfaction organisée. Je me permets de vous relire cette phrase qui, pour moi, est essentielle dans l'histoire d'Auroville. Et même, ne pouvant trouver aucun aliment dans les solutions spirituelles ou idéales qui résolvent tout, sauf les pressants problèmes de notre vie actuelle. L'intelligence humaine s'en retourne souvent pour accepter exclusivement l'existence vitale et matérielle et en poursuivre le plus loin possible de façon raisonnée ou instinctive l'efficacité, le bien-être et la satisfaction organisée. Un évangile de la volonté de vivre ou de la volonté de puissance, d'une perfection vitale et matérielle, rationalisée, devient le dharma reconnu de la race humaine. Et tout le reste passe pour une prétentieuse fausseté ou quelque chose de bien subsidiaire, une question annexe de conséquences mineures et subordonnées. Toutefois, la vie et la matière, en dépit de leur insistance et de leur grande importance, ne sont pas tout l'homme, et l'homme ne peut entièrement accepter le mental comme simple serviteur de la vie et du corps auquel on concéderait quelques purs plaisirs qui lui soient propres pour le récompenser en quelque sorte de ses services. Impossible aussi de le considérer tout à fait comme un simple prolongement et une efflorescence de l'élan vital, un luxe idéal dépendant de la satisfaction de la vie matérielle. Beaucoup plus intimement que le corps et la vie, le mental et l'homme, et à mesure qu'il se développe, le mental insiste de plus en plus pour faire du corps et de la vie des instruments indispensables, mais qui dressent un obstacle énorme, autrement il n'y aurait pas de problème, pour les plaisirs qui le caractérisent et pour le réaliser. Voilà, alors aujourd'hui, je vais arrêter cette lecture d'essai sur la Gita de Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi, House of Mother Ajanda, Savitri Bhavan. Thank you.